Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la lutte politique entre les partisans de l'inhumanité et les autres, entre les prêts à tout pour leur carrière et les défenseurs de valeurs, mais comme c'est week-end d'élection, on n'a pas le droit. Alors on va continuer à vous donner des nouvelles de la fin du monde, car au-delà des enjeux tactiques électoralistes, il convient de se souvenir que nous sommes à la croisée des chemins en termes de climat, en termes de biodiversité, en termes de production alimentaire, et que nos tergiversations à nous débarrasser du productivisme et de l'égoïsme libéral contribuent jour après jour à rendre notre environnement totalement invivable. Tiens, prenons le manger. On apprend cette semaine que le CERAFEL, association d'organisation de producteurs, affiche en Bretagne un chiffre d'affaires pour leurs légumes en hausse, malgré des volumes en baisse. Et qu'est-ce qu'ils accusent pour la baisse ? Eh bien, la tempête Ciaran qui est tombée sur la Bretagne, il n'y a pas si longtemps. Reconstruire des serres, voilà ce que propose le CERAFEL et ce qu'il va falloir faire pour abriter les cultures. Ça va pas être possible à très long terme, notamment pour ce qu'on appelle les grandes cultures. La production de céréales, par exemple, pour faire pousser 35 millions de tonnes de blé tendre ou 2 millions de tonnes de tournesol, comme en France en 2023, il va en falloir de la serre. Mais le discours est à l'adaptation. Non pas des pratiques agriculturales, mais à l'adaptation au climat, on continue à faire du productivisme le plus possible. Mais dans quelles conditions ? Puisque le climat n'est pas content, on va continuer à le faire sous des serres, par exemple. Et pourtant, on a un recul historique sur le sujet. Puisque le climat n'est pas à son premier soubresaut, par exemple, la canicule de 2003 fut l'occasion de connaître les effets d'une canicule sur les êtres vivants. Des milliers de morts chez les vieux et les autres, ce qui fut nommé surmortalité. C'est joli, hein ? Mais au-delà des êtres humains, l'ensemble des êtres vivants ont souffert, souffrent et souffriront des épisodes climatiques extrêmes comme une canicule, à tel point que pour 2023, en Europe, 20 à 30% des récoltes ont été perdues, les plantes mourant d'avoir trop chaud. Dans un article de Nature, volume 437 datant de 2005, intitulé « Réduction de la productivité primaire à l'échelle européenne causée par la chaleur et la sécheresse en 2003 », on vous donnera bien les auteurs, mais ils sont, une grosse douzaine. Eh bien, il est dit: le futur réchauffement climatique devrait améliorer la croissance des plantes dans les écosystèmes tempérés et augmenter la séquestration du carbone. Mais même si les fortes vagues de chaleur régionales pourraient devenir plus fréquentes en raison du changement climatique, leur impact sur le cycle du carbone terrestre n'est pas clair. Nous rapportons ici les mesures des flux de dioxyde de carbone des écosystèmes, des rayonnements télédétectés absorbés par les plantes et des rendements des cultures à l'échelle nationale prises pendant la vague de chaleur européenne de 2003. Nous utilisons un modèle blablabla, et là, nous estimons une réduction de 30% de la productivité primaire brute en Europe, ce qui a entraîné une forte source nette anormale de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et inversé l'effet de 4 années de séquestration nette du carbone par l'écosystème. Nos résultats suggèrent donc que la réduction de la productivité en Europe orientale et occidentale peut s'expliquer respectivement par un déficit pluviométrique et une chaleur estivale extrême. Nous constatons également que la respiration des écosystèmes a diminué parallèlement à la productivité primaire brute, plutôt que de s'accélérer avec l'augmentation de la température. Les résultats du modèle, corroborés par les enregistrements historiques des rendements agricoles, suggèrent qu'une telle réduction de la productivité primaire en Europe est sans précédent au cours du siècle dernier. Une augmentation des futures sécheresses pourrait transformer les écosystèmes tempérés en sources de carbone, contribuant ainsi aux rétroactions positives carbone-climat, déjà anticipées sous les tropiques et aux hautes latitudes. Rétroaction positive, ça veut dire qu'il y aura plus de carbone. On sait donc tout. On sait que c'est le bazar. Non seulement il y a moins à bouffer, mais en plus, ça remet du carbone dans l'atmosphère, ce qui accélère quoi ? L'effet de serre qui est à l'origine du changement climatique profond que l'on connaît actuellement. Nonobstant les climato-sceptiques, on sait donc tout. Et les 20 à 30% sont corroborés par les statistiques de l'Union européenne. Alors, Alors, il conviendrait d'agir au lieu d'élire. Tiens, un vieux slogan anard qui se prête bien au présent. L'action, ce serait de faire plein de choses. Et cette action, elle a lieu puisque des dizaines de milliers d'agriculteurs ne font plus dans le productivisme. Je parle de la France. Hein. Des dizaines de milliers de Pékins moyens se mobilisent contre l'accaparement de l'eau, par exemple, contre les projets routiers et contre les projets industriels inutiles. Et bien d'autres gens qui font ce qu'ils peuvent pour ne pas trop consommer et plutôt utiliser les produits et marchandises que de les consommer. On trouve même des États qui s'y collent. On apprend cette semaine que le gouvernement danois va introduire une taxe carbone sur l'agriculture. À partir de 2030, il faudra payer 16 euros par tonne de CO2, voilà le chiffre actuellement, soit environ 100 euros par vache. Ça devrait orienter les productions. Par exemple, faire moins de vaches, moins de viande, moins de lait, moins de produits laitiers. Enfin bon, voilà, ça devrait orienter les productions. Mais c'est peut-être pas suffisant et ça ne commence qu'en 2030. Alors, jeunes gens, va falloir agir un petit peu avant, puisque là, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que... on n'a jamais vu ça dans la bande tropicale, le fameux cyclone Beryl. Il est un petit peu trop tôt dans la saison. On apprend également que les agriculteurs français ont des petits soucis. Pourquoi ? Parce qu'il a trop plu. Ouais, soit il pleut pas assez, soit il pleut trop. En tout cas, c'est déréglé. Alors, il va falloir agir et continuer à agir. On aurait pu vous parler d'économie capitaliste. Si c'est pas des nouvelles de la fin du monde, ça, je ne sais pas ce que c'est. L'économie capitaliste, on se rappellera quand même qu'il a pour but d'accumuler ce capitalisme, l'accumulation de profits par la vente de n'importe quel produit, que le produit en question soit une arme de destruction massive ou une tomate transgénique. L'important étant que ça génère du maximum, du profit et du bénéfice. Lundi 1er juillet, après les résultats du premier tour des législatives, la Bourse de Paris a fait un bond de près de 3% avant de redescendre un peu mardi et de rebondir tout le reste de la semaine en territoire haussier, comme on dit chez les boursicoteurs. Les marchés sont donc confiants. Pourquoi ? Parce que le libéralisme est bien ancré. Ouais, ça va, pas de souci. L'exploitation des populations est assurée. Les résultats des élections n'y changent rien. La majorité législative sera pro-marché. Ouais, les profits vont continuer de couler à flot dans les poches des actionnaires. C'est pas cool, ça ? Non, c'est pas cool du tout. Et pourtant, c'est ce qui est en train de nous tomber dessus.
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le B.
B.
Le B comme banque. Les banques accumulent beaucoup d'argent en prêtant aux personnes. C'est entre autres là que les parents se font voler l'argent qu'ils gagnent avec leur travail. Après avoir prêté de l'argent, la banque demande de se faire payer le double ou le triple du montant prêté. Ce sont les intérêts sur la dette. Les gens s'y endettent souvent pour acheter des marchandises dont ils n'ont pas forcément besoin. Lorsque les gens ne peuvent plus payer leurs dettes, la banque peut prendre leur maison et eux doivent trouver un autre endroit pour dormir. Mais finalement, sans transition, on a préféré vous parler de l'humain libéral en économie. Et c'est travers avec Dany Robert Dufour. Ce dernier a fait paraître en 2023 un livre intitulé « Le phénomène trans, le regard d'un philosophe ». Vous me direz, ça n'a aucun rapport avec l'humain libéral. Puisque dans ce livre, l'auteur tire le fil déjà long de l'intérêt du libéralisme à toujours renouveler l'offre. Avant de vouer le Dufour aux gémonies et l'accuser de tous les conservatismes possibles, il convient de chercher à comprendre la thèse de ce philosophe de métier. Je vous rappelle le nom du bouquin, Le phénomène trans, le regard d'un philosophe. En octobre 2020, nous avions consacré une émission à Dany Robert Dufour pour en savoir un peu plus sur les ressorts de l'humain libéral. C'est parti, on se retrouve juste après. Professeur de philosophie à la retraite à Paris 8, non il n'est pas à la retraite à Paris 8, il était professeur de philosophie à Paris 8 et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud notamment, il a connu une petite gloire médiatique en décembre 2018 après la parution d'un pamphlet intitulé « Le projet Jupiter » sous le pseudonyme de Démosthène, du nom d'un philosophe grec de l'Antiquité, grand dénonciateur de l'hubris, la démesure qui détruit la civilisation. Pour en savoir plus sur le projet Jupiter, où Jupiter n'est autre que l'acteur raté mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep, je vous conseille une émission de Arrêt sur Image. Vous cherchez sur arrêtsurimage.net et puis là vous notez Démosthène ou vous notez Macron ou vous notez Projet Jupiter et vous devriez trouver cette émission qui fait dans les 40 et quelques minutes et qui vous permettra d'en savoir plus sur Dany Robert Dufour. Non, pas maintenant, parce qu'on va vous en dire plus quand même. Quand il ne se fait pas appeler Démosthène, Dany Robert Dufour travaille tout d'abord sur le langage et la sémiologie. Il analyse ce qu'on dit, comment on le dit et les signes que cela produit. Le voilà donc à l'œuvre à la fin du XXe siècle pour décoder les travaux des précurseurs de la linguistique, les travaux des psychanalystes comme Lacan, qu'il a beaucoup lu, des structuralistes comme Foucault, et lui vient une intuition. Et si tout ce beau monde était en train d'oublier que la relation de quelqu'un ou d'un groupe à quelqu'un d'autre ou à un autre groupe avait de tout temps utilisé un intermédiaire? En fait, de « je » à « tu », le « je » J-E à « tu » T-U, il existe un « il », un « il » transcendant, au-dessus du « je », au-dessus du « tu ». Dieu, par exemple, joue le mieux le rôle, c'est d'après ce que nous dit Dany Robert Dufour. Mais ça peut aussi être un roi, un prince, le tout pouvant être mis au féminin, bien sûr. C'est ce que Dany Dufour appelle les grands sujets. Ces intermédiaires, ces grands sujets, peuvent aussi être des valeurs. En ce moment, nos dirigeants assurent parler au nom des valeurs de la République. Bon, tout ça, c'est pour nous enfumer encore plus. Mais vous voyez, elles sont là, au-dessus de nous. Et normalement, elles devraient dicter en partie nos actions. En tout cas, les grands sujets sont au-dessus et servent à délimiter les rapports sociaux pour les rendre possibles. Les 10 commandements, par exemple, dans l'Ancien Testament, n'ont pas d'autre rôle. Une constitution dans un territoire, sur un État, sert aussi à cela. Seulement, ces grands sujets sont le sujet, justement, d'abus de pouvoir par les prêtres de toutes les religions, les dirigeants élus ou pas, les hommes, ceux qui donnent le patriarcat, les grands sujets se déclinant de l'échelle du foyer à l'ensemble d'une civilisation. Une entreprise de destruction des grands sujets se met en place après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans la philosophie, chez les penseurs de tout poil. Et voilà, donc les pères, P-E-R-E, l'école, Dieu, les grandes idéologies présentées comme castratrices, nous empêchant d'être libres, carcans insupportables, mis en pleine déstructuration. Pour Dany Robert Dufour, une fois la libération vis-à-vis des grands sujets enclenchée, il faut bien combler le vide. Dans un ouvrage qui s'intitule « Le divin marché », datant de 2007, on peut lire ceci. La question serait donc de savoir de quel nouveau dieu ces ensembles d'individus qui se croient libres sont les troupeaux. Car il se pourrait bien qu'une nouvelle religion soit en formation. Nos pères virent la chute de la terrifiante religion nazie, du salut par la race, des forts contre celle des faibles. Nous vîmes récemment le déclin de la religion marxiste du rachat par le prolétariat, porté à son point de folie furieuse par le stalinisme. Mais nous ne savons pas assez que, depuis leur faillite, une nouvelle religion préparée de longue main, celle du marché, est en train de s'installer, non sans provoquer de violentes réactions émanant de religions plus anciennes. Là donc où beaucoup nous imaginent libérés des dogmes anciens et sont enclins à nous penser comme momentanément errants, sonnés sous le coup d'une ivresse spontanée provoquée par cette libération, je nous vois plutôt comme potentiellement assujettis à un nouveau dieu, une nouvelle divinité, un rien perverse, au demeurant puissant qu'au lieu de nous interdire, elle nous laisse la bride sur le cou. Plus de régulation morale. Laissez faire. Bref, nous serions tombés sous la dépendance d'un nouveau dieu, un peu sadien sur les bords, le divin marché qui nous dirait « jouissez ». Pour Dufour, l'intuition du grand sujet intermédiaire nécessaire à la vie en société s'accompagne de sa destruction qui, de fait, ne fait pas que libérer. Dans « L'art de réduire les têtes » datant de 2003, il s'interroge. Une discrète anthropophagie perdurerait-elle sous le progrès ? Parce qu'il nous dit que, de fait, le libéralisme consomme les corps, notamment par le travail, les fameux corps productifs. Hein, on est des ressources humaines pour eux. Et on est aussi membres actifs de la société de consommation, qui, de fait, peut abîmer également ces corps, notamment en bouffant un peu n'importe quoi. Mais maintenant, il y a un tournant, le tournant post-moderne. Pour Dany Robert Dufour, il y a aussi une consommation des esprits. La raison instrumentale, c'est-à-dire la technique, est en plein développement au détriment de la raison pure, c'est-à-dire la faculté de juger a priori de ce qui est vrai ou faux, voire de ce qui est bien ou mal. De fait, une consommation ou consommation passant totalement par la télé. Toujours dans l'art de réduire les têtes, il nous dit ainsi. On oublie souvent de mentionner que le temps en plus pour la télévision, c'est du temps en moins pour la famille. De sorte que, avec la télévision, c'est la famille comme lieu de transmission générationnelle et culturelle qui se trouve d'emblée réduite à la portion congrue. En ce sens, l'expression « les enfants de la télé », prise au pied de la lettre, au lieu de faire sourire, pourrait vraiment apparaître pour ce qu'elle est. Plutôt pathétique, tant elle avère le fait que la télé a effectivement ravi la place éducatrice des parents auprès des enfants. Pour devenir ce que des études québécoises nomment comme un troisième parent, particulièrement actif, supplantant de plus en plus les vrais parents. Mais ce temps en moins pour la transmission générationnelle est un temps en plus pour quoi, au juste ? Qu'est-ce que cela signifie ? Le fait que désormais les petits d'hommes se retrouvent devant l'écran, qui s'adresse à tous et à personne en particulier, avant même de parler. Je vais m'attacher à montrer que cela produit des effets très précis, pouvant aller jusqu'à l'effondrement de l'univers symbolique et psychique. Ce qui n'est pas très rassurant, l'effondrement symbolique dû à l'absence de valeurs transcendantes au-dessus de nous, en tant que moi, à flûte. Voilà un détour vers la psychanalyse. Donc rien au-dessus de moi, le moi, que la maximisation du profit. Tout étant réduit à l'état de marchandise. Quand Dufour parle de marchandisation du monde, le slogan, eh bien, il porte aussi le sens de la désymbolisation du monde. Et cette libération, entre guillemets, vis-à-vis des grands sujets, nous laisse sans monde symbolique, seul avec nous-mêmes, seul avec le fameux moi. Le voilà d'ailleurs bien esselé, le moi. Petit rappel vite fait avec l'aide bienvenue du philosophe qui nous accompagne aujourd'hui. Chez les psys freudiens et lacaniens, le moi est le lieu de la délibération critique. Ce que les Grecs de l'Antiquité avaient défini comme l'âme d'en haut, le siège de la raison. Le ça, lui, est le lieu de la réserve pulsionnelle. Ce que les Grecs de l'Antiquité avaient défini comme l'âme d'en bas, le siège de la passion. Là où se nichent par exemple les besoins des jeunes hommes voyant poindre le moindre téton dans une rue. Et entre les deux, le surmoi. Le surmoi qui fait basculer vers le moi, c'est-à-dire limite les pulsions, parce qu'on est raisonnable, ou alors le surmoi qui fait basculer vers le ça, la petite voix qui nous dit « vas-y, fonce, quoi qu'il en coûte », dirait un acteur raté mais vrai banquier. Les Grecs logeaient cela dans le cœur. Le surmoi était logé dans le cœur par les Grecs. Dans le cœur qui nous rendrait héroïque ou pitoyable. Pour Dufour, c'est sa thèse dans « La cité perverse » qui date de 2009, le libéralisme s'adresse seulement à notre « ça ». C'est-à-dire l'âme d'en bas. Il nous fait penser avec nos tripes, nous encourageant à baser nos actions sur la satisfaction de nos pulsions, quoi qu'il en coûte pour le reste de l'humanité. On a rappelé tout à l'heure dans l'extrait du Divin Marché que le maître mot du libéralisme c'est « laisser faire ». Et Dufour ressort la fable des abeilles d'un certain Bernard de Mandeville, un auteur anglais du début du XVIIIe siècle qui a beaucoup influencé Adam Smith et Friedrich Hayek, penseur reconnu du libéralisme. Dans cette fable, on peut lire la fable de Bernard de Mandeville intitulée « La fable des abeilles ». Soyez aussi avide, égoïste, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. De fait, la thèse de Mandeville étant que les vices des particuliers participent à la création de richesses, donc c'est positif pour l'ensemble de la société. Et voilà pourquoi on continue à croire que la croissance du produit intérieur brut est totalement bénéfique, alors que, rappelons-le, elle compte les accidents de voiture, mais aussi la réparation de ces voitures. Elle compte les maladies graves, mais aussi les médicaments que l'on donne pour soigner ces maladies. Elle compte aussi la répression des mouvements sociaux, mais aussi toutes les grenades et les matraques qui ont été dépensées, abîmées pendant, et donc qu'il faudra remplacer, pendant la répression de ces mouvements sociaux. L'appât du gain comme seule valeur pouvait apparaître comme incongru au XVIIIe siècle, quand Mandeville nous balance cette idée que les vices des particuliers sont en fait la vertu de la société. Mais, nous dit Dufour, prenez l'époque actuelle, après la mise en coupe réglée des grands sujets, et cette idée saugrenue devient un sens à nos vies, même si elle pousse certains à faire de tout une marchandise. Dans un petit recueil appelé « Pléonexie », on peut lire « Si le marché peut vraiment assouvir toutes les appétences, quelles qu'elles soient, si cela est vrai, alors on peut dire que la civilisation occidentale est passée d'une nécessité de contrôle des passions et des pulsions à l'exploitation industrielle de l'âme d'en bas. On peut parler ici d'un tournant libidinal du capitalisme. » La pulsion, toujours la pulsion. Le marché aime les individus pulsionnels, capricieux, trépignant devant un magasin pendant des heures pour être sûr d'avoir son hochet numérique, prêt à écraser, littéralement, prêt à écraser l'autre pour faire une bonne affaire pendant les soldes. En plus, pour chaque pulsion apparaît un marché. Le porno, plus besoin de rapport à l'autre, à tout moment on peut se faire jouir. L'adoption, à l'essai, comme aux États-Unis, les amis qu'on peut louer à l'heure ou la journée au Japon. Une envie égale un produit. Sans avoir à lier commerce avec autrui, il suffit de dépenser.
Les pulsions comme boussole nous amenant à croiser des catégories de population dont les membres se multiplient. On a le pervers narcissique, tout pour lui et tant pis pour les autres. Il encombre nos écrans et les internets. On a le psychotique qui lui tente d'imposer son délire comme une réalité à suivre et qui parfois arrive au pouvoir. Et le dépressif qui n'arrive pas à se hausser au niveau de perversion demandé par la société pour jouer le jeu du libéralisme et en devient immensément triste.
Je dis rien, j'attends. Quand ça devient insupportable, je deviens fou. J'attends. Quand ça devient insupportable, je deviens fou. Je dis rien, j'attends. Et ça devient insupportable, je deviens fou. J'attends. Quand ça devient insupportable, je deviens fou. Je dis rien, j'attends. Et quand ça devient insupportable, je deviens fou. Je dis rien, j'attends. Et ça devient insupportable, je deviens fou. J'ai essayé 100 fois d'expliquer ce qui s'était passé sans y arriver. Les mots aussi sont prisonniers. J'ai continué, tout le monde disait la fin du monde va arriver, va arriver. À force d'en entendre parler, on avait l'impression qu'elle était déjà passée. J'ai continué à perdre confiance dans les gens et dans ma chance. Et la fin du monde, on en entend encore parler.
Dufour postule que l'homme nouveau, né du libéralisme, vire au psychotique, se croit libéré des grands sujets, mais est de fait retombé dans le piège d'un nouveau grand sujet, le marché, fonctionnant comme une religion où le salut s'obtient dans l'accroissement sans limite des richesses, adepte de la pléonexie, le fait de vouloir posséder toujours plus, et qui pour cela est prêt à tout. Dans justement un recueil qui s'appelle Pléonexie, un petit recueil où on trouve un certain nombre de textes et notamment une réécriture de la fable des abeilles de Mandeville, on peut lire dans l'introduction page 35 « Aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation ultralibérale dérégulée, ces pratiques pléonexiques perdurent et même s'épanouissent. En plus du nom classique de bakchiche utilisé dans le texte, mot persan passé à l'arabe puis au turc, on les nomme désormais de multiples façons, pot de vin, titrisation de créances pourries, hedge fund permettant de spéculer à la baisse comme à la hausse sur l'évolution des marchés, manipulation comptable, manipulation de prix de transfert, fraude et évasion fiscale par filiale offshore et société écran installée dans des paradis fiscaux, détournement de crédits publics et marchés truqués, corruption et commissions occultes, enrichissement sans cause et abus de biens sociaux, surveillance et espionnage, chantage et délation, violation des réglementations en matière de droit du travail et de liberté syndicale, d'hygiène et de sécurité, de cotisation sociale, de pollution et d'environnement, rétrocommission, commission, sans oublier la rétro-omission, laquelle survient quand le nouveau président horrifié cesse de verser des commissions et rétro-commissions convenues par l'ancien. Bref, dans ces sublimes économies, on ne cesse de miser et de remiser en attendant comme au jeu le retour sur investissement, voire autant que possible jackpot. Nul doute que nous ayons aujourd'hui atteint le stade suprême de la pléonexie, puisque le capitalisme est constitué de l'ensemble de ces transactions où chacun essaie d'avoir plus que sa part. Essaie d'avoir plus que sa part aux dépens du reste de l'humanité. Coincé par son ego, celui qui participe au grand jeu pervers du libéralisme doit accumuler sans fin, sans limite, sans les limites posée depuis l'éternité par la nécessité de faire société. Et l'individu qui vient, titre d'un ouvrage de Dany Robert Dufour de 2011, n'est pas très beau à vivre. Aussi, Dufour propose de repenser de manière critique les grands sujets balayé par la vague de « libération » entre guillemets 68arde, pour reprendre le processus civilisationnel et enfin libérer l'individu devenu par la loi du marché un égoïste qui fait finalement comme les autres, acheter de quoi contenter ses pulsions, devenu un égo grégaire. Dans l'individu qui vient, il appelle de ses voeux à revenir à la culture. Nous avons aujourd'hui le devoir de concevoir une culture permettant cette seconde naissance, tendant à fabriquer un individu non pas sérialisé dans les foules acclamant le Führer ou dans les masses du collectivisme, ou encore réduit à ses pulsions, mais un être singulier, c'est-à-dire un véritable sujet capable de penser et d'agir par lui-même tout en étant insubstituable. Si cet homme a dès la naissance tant besoin de l'autre, c'est donc en fin de compte pour devenir lui-même. Telle est la loi de l'humanisation. La conquête de mon autonomie passe par l'autre. C'est donc ce passage nécessaire par l'autre qu'il faut instituer. Et pour l'instituer, il faut des institutions qui d'une part sollicitent, vont chercher le sujet partout où il peut advenir et qui d'autre part prohibent, c'est-à-dire interdisent aussi bien son instrumentalisation par l'autre que l'instrumentalisation de l'autre à son profit. Pour que l'autonomie subjective soit rendue possible, il faut donc que des conditions minimales soient réunies dans la culture. Autrement dit, il faut qu'y soient inscrites des propositions dogmatiques minimales concernant le rapport à soi et le rapport à l'autre. Le secret à trouver ressort probablement à une affaire de dosage entre maxime égoïste et maxime altruiste, créatrice de ce que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient la sympathie, et que l'on entend comme la capacité naturelle de l'homme inhérente à la vie en société à se mettre à la place d'autrui. Or, si l'on peut faire confiance à l'homme pour défendre spontanément la maxime égoïste, probablement ne le peut-on pas autant pour la maxime altruiste. C'est pourquoi la défense de cette seconde maxime suppose des institutions symboliques fortes, politiques, juridiques, culturelles. Le nouvel individualisme que nous attendons, celui qu'il faut inventer, ne saurait donc être qu'un individualisme altruiste, ou mieux, un individualisme sympathique. Autrement dit, le réenchantement du monde passe aujourd'hui par la recherche d'un individualisme enfin sympathique. De fait, par son travail, Dany Robert Dufour nous enjoint à constater l'emprise de nos pulsions sur nos vies, à constater l'emprise du marché sur nos vies, afin de reconstruire une culture débarrassée du pire des grands sujets, afin d'accéder à un individualisme avec un individu enfin réalisé comme personnalité apte au gouvernement de soi, soucieux de l'autre et conscient de sa place relative dans l'univers.
Bon, moi je vais peut-être entamer une psychanalyse. Samedi 6 juillet 2024 à 14h45, devinez ce qui se passe pendant la marche des fiertés. Eh bien, il y aurait un cortège radical pour la Pride. Rendez-vous place des Jacobins près du tunnel à 14h45. À l'appel de la CNT, la Confédération Nationale du Travail, des anarcho-syndicalistes, et de la CIM, collectif intersectionnaliste du Mans et des environs. Notamment, hein, il paraît qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas trouvé la référence. Les deux orgas ont aussi un stand au village de la Pride, qui est place de la République, à partir de 13h, avec dans ce stand des gens, des stickers, des brochures et un atelier pancarte banderole pour participer donc au cortège radical qui se donne rendez-vous à 14h45 près du tunnel place des Jacobins. Dimanche 7 juillet, quels que soient les résultats électoraux, réunissons-nous et occupons la rue. Voilà ce que propose l'Assemblée Générale Antifasciste de la Sarthe qui appelle donc à un apéro rassemblement comme la semaine dernière, suivi d'une manifestation à 19h30 place de la République au Mans. Et sinon, il se passe sans doute d'autres choses. Pour savoir, ce qui serait bien, c'est de se renseigner auprès des orgas que vous côtoyez, mais de se renseigner aussi sur sarthe.demosphère.net, sarthe.demosphère.net. Petit appel à la population, sachez que le centre social autogéré L'Allumette, situé dans le quartier de Pontlieu, a toujours besoin d'argent et de compétences. Alors n'hésitez pas à les contacter en allant sur place 7 rue de la Marne, les mercredis et samedis après-midi, lors des permanences, avec des activités les autres jours. Vous pouvez utiliser aussi les réseaux dits sociaux, avec un Facebook, un Instagram, l'Internet, avec un mail ou le téléphone. C'est donc cette rue de la Marne, quartier de Pontlieu. Pour Insta, c'est @l_allumette. Pour le Facebook, c'est @allumette.csca. Pour le mail, c'est l'allumettelefeu tout attaché @libremail.net. Et un numéro de téléphone 07 57 18 96 07 57 18 96. Bon, et ben tout ça pour vous dire tout simplement à la prochaine quand même. Je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir.